Il est tout juste 6h30 à Paris et Niamey, merci d'écouter RFI 5h en temps universel. 5h30 en temps universel et le journal avec vous, Néméon Pise, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Et au Niger, Moussa Tchangari a passé sa première nuit sous mandat de dépôt.
Figure de la société civile, il avait été emmené au début du mois de décembre par des hommes armés. Depuis, il était en garde à vue. Moussa Tchangari désormais visé par 2 chefs d'accusation supplémentaires, en plus des 3 déjà connus, atteinte à la défense nationale et intelligence avec des puissances ennemies. Nouvelle avancée significative pour le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de Katale, à 70 km environ de Goma. La grâce présidentielle avait été annoncée le 31 décembre. Elle a été exécutée le 2 janvier en Centrafrique. 400 détenus ont été libérés de la prison centrale de Ngaraba à Bangui. Et puis la fin de ce journal au Cap, en Afrique du Sud, la ville organise aujourd'hui son carnaval de début d'année, le second nouvel an, comme il est connu sur place. Déguisement et musique traditionnelle au programme. Un mois, jour pour jour, après son arrestation par des hommes armés, Moussa Tchangari a été écroué hier, vendredi 3 janvier, à la maison d'arrêt de Filingué. À près de 200 km de Niamey, le défenseur des droits humains et figure de la société civile nigérienne était jusqu'ici en garde à vue. Et avant sa première nuit en prison, il avait été présenté un peu plus tôt dans la journée devant le tribunal de grande instance de Niamey et inculpé de nouvelles charges. Plus de détails avec Amélie Tulé.
Moussa Tchangari a été présenté devant le doyen des juges d'instruction, accompagné de ses avocats, des membres de sa famille et de plusieurs défenseurs des droits humains. En plus des 3 chefs d'accusation déjà connus, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme et apologie du terrorisme, il a été inculpé également d'atteinte à la défense nationale et d'intelligence avec des puissances ennemies. Moussa Tchangari a donc été conduit à la prison de Filingué, à 180 km au nord-est de Niamey. Selon l'un de ses collaborateurs, son moral reste bon. Secrétaire général de l'ONG Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari venait de rentrer de voyage le soir du 3 décembre dernier, quand il a été interpellé à son domicile de Niamey, son ordinateur, ses téléphones et sa valise confisqués. Il fait partie de ceux qui osent encore formuler des critiques à l'encontre des autorités militaires en place au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale pour les droits humains appellent à sa libération et dénoncent une répression généralisée au Niger contre toute opposition.
Au Burkina Faso voisin, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide qui portent désormais à 28 le nombre de bataillons de ce genre mis en place depuis son arrivée au pouvoir par la force en septembre 2022. Ils seront stationnés à Diapaga et Ougarou dans la région de l'Est et à Arbinda dans la région du Sahel. Le président de la transition qui avait annoncé lors de ses vœux pour la nouvelle année une intensification de la guerre contre les groupes armés terroristes. On y revient plus en détail dans nos prochains journaux. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats ne cessent de s'intensifier depuis la réunion tripartite ratée de Luanda qui devait réunir les homologues rwandais et congolais Paul Kagame et Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise. Et hier, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont pris le contrôle de la localité de Katale, en territoire de Massissi, après de violents affrontements face à l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo. Katale, situé à plus de 70 km au sud de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, est considéré comme le dernier verrou avant la ville de Massissi Centre, chef-lieu du territoire. Correspondance depuis Goma, signée Héritier Baraka.
La prise de cette localité stratégique a eu lieu en début d'après-midi, selon des sources locales et sécuritaires, après 2 jours de violents affrontements tout autour, entre d'un côté l'armée et ses alliés Wazalendo, et de l'autre côté les M23 soutenus par les Rwandais. Katale était jusque-là la principale place forte des FARDC, avant la ville de Massissi Centre, symbole administratif de la région. Une avancée des rebelles déplorée par Télésphore Mutondé qui est rapportée de la société civile du territoire de Massissi.
L'ennemi vient en tout cas de s'emparer de la cité de Katale, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils, parce que plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Massissi. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations.
Les responsables administratifs, Thierry Mohindo, précisent que l'avancée des rebelles, accompagnée des détonations d'armes, qui ont provoqué une panique générale dans la région, a provoqué un déplacement massif de la population. Le colonel Séraphin Sabimana, porte-parole de Wazalendo dans la région, assure que tout est mis en œuvre pour une riposte. Et pour l'instant, l'armée n'a pas encore réagi. D'autres combats étaient signalés ce matin sur l'axe Minova-Bweremana à une quarantaine de kilomètres de Goma. L'avancée des combattants du M23 intervient après la chute de l'agglomération de Kaniro et d'autres villages dans les mêmes territoires de Masisi. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Après des mois d'activité sismique accrue, l'Éthiopie a été touchée ces dernières 24 heures par deux nouvelles secousses sismiques dans le nord du pays. Le centre de recherche allemand pour les géosciences relève un séisme de magnitude 5,8 ce samedi. Hier soir, c'est le centre sismologique euro-méditerranéen qui en recensait un de 5,5 à 55 km au nord-ouest de la ville d'Asbé Teferi, non loin de la frontière entre les régions de l'Afar et de l'Oromia. Une secousse qui a provoqué, selon cette même source, l'éruption d'un volcan. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. Au Nigeria, c'est une réouverture qui éveille les soupçons, celle de la deuxième raffinerie publique située à Wari, dans le delta du Niger. Soupçon de l'ancien président, notamment Olusegun Obasanjo, a publiquement remis en cause les capacités de la Compagnie nationale pétrolière a géré les quatre raffineries étatiques qui avaient été toutes laissées à l'abandon pendant des décennies. Lisa Fabian.
La réouverture de la raffinerie de Wari a été présentée comme un cadeau de fin d'année offert aux Nigérians. Une nouvelle heureuse, selon le président Bola Tinubu, quelques semaines seulement après la remise en service de la raffinerie de Port Harcourt. Celle de Wari fonctionnerait déjà à 60% de sa capacité totale, estimée à 125 000 barils par jour, selon la compagnie nationale pétrolière NNPCL. Sauf que cette information est mise en doute par les spécialistes du secteur et même par l'ancien président Olusegun Obasanjo, qui a étrié les responsables de la compagnie pétrolière nationale à la télévision. L'ex-chef d'État nigérian a notamment révélé que le milliardaire Aliko Dangote avait proposé durant son mandat un partenariat public-privé pour la gestion des raffineries nigérianes. En 2007, le Mania aurait même versé 750 millions de dollars pour sceller son offre, mais celle-ci a été rejetée par la NNPCL, qui s'est dite compétente pour gérer seule ses infrastructures publiques. Un tissu de mensonges, estime aujourd'hui Olusegun Obasanjo. Plus de 2 milliards de dollars ont été engouffrés dans ces projets de réhabilitation et les raffineries ne fonctionnent toujours pas, a-t-il notamment déclaré.
Lisa Fabian, Radio France Internationale, 6h37 à Brazzaville, la République du Congo dans cette édition. Et cet immense soulagement pour les riverains de l'usine de recyclage de batteries Metsa Congo, située à Pointe-Noire dans le quartier de Vindoulou. Voilà deux semaines que le démantèlement de l'usine a débuté. Pêle-mêle, démontage des fours, retrait des tôles de la toiture, il ne reste en fait plus que la charpente. Une victoire d'étape majeure pour les habitants voisins après des années de lutte pour faire reconnaître l'impact sanitaire mais aussi environnemental de cette entreprise polluante dans un quartier résidentiel. Je vous propose d'écouter Cyril Traoré Ndembi, président du collectif des riverains de cette usine.
Nous sommes tellement heureux parce que tant qu'il y avait ces installations devant nous, malgré le fait qu'il y avait une lueur d'espoir, rien ne nous rassurait que cette usine pouvait définitivement fermer. Merci surtout aux autorités qui ont pris une décision courageuse. Enfin, ce n'est qu'une étape. À partir du moment où nous savons tous que les personnes vivant autour de l'usine sont contaminées au plomb, il faut une prise en charge, il faut décontaminer le secteur. Mais aussi, il faut réparer le préjudice. Il faut que le médecin, donc le pollueur, qu'il puisse payer le prix qu'il faut afin que nous puissions avoir droit à réparation.
La satisfaction de Cyril Traoré Ndembi, président du collectif des riverains de l'usine de recyclage de batteries Metsa Congo. J'ajoute que des taux élevés de plombémie avaient été détectés lors de prélèvements sanguins réalisés avec le soutien de l'ONG Amnesty International et qu'une procédure judiciaire est en cours. Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, a adressé un courrier au directeur de l'usine demandant une prise en charge médicale des résidents et des anciens employés de l'usine, mais aussi un audit environnemental et une délocalisation de ses activités. Aussitôt annoncée, aussitôt mise en place, cette grâce présidentielle en Centrafrique, dont avait fait part Faustin Archange Touadéra dans ses vœux de la nouvelle année, le 31 décembre. Et trois jours après, donc, 400 détenus de la prison centrale de Ngaragba à Bangui ont été libérés. Reportage de Rolf-Steve Domialeux qui a assisté à cette opération.
Dans la grande cour de la prison centrale de Ngaragba, les prisonniers sont alignés les uns à côté des autres. Souriant ou étonné, certains n'en reviennent pas. À l'appel de son nom, Bruno Kouzou, l'un des prisonniers, avance et récupère son certificat de libération.
J'ai fait seulement 5 mois ici. Mais vraiment, ce que j'ai vu ici, j'ai traversé l'enfer. Je vais rentrer dans la famille, voir mes enfants, voir ma femme. Je reprends ma vie à zéro. À mes frères qui sont encore dehors, vraiment, vous faites très attention à ce que vous faites. Je remercie beaucoup le président de la République pour sa merveille.
Chaque prisonnier libéré remet sa combinaison orange aux gardes pénitentiaires sous les applaudissements des proches rassemblés à l'entrée de la prison. Arnaud Dubaï Abazen, ministre de la Justice, explique les raisons de cette mesure de grâce.
Il s'agit d'une mesure de pardon que l'autorité, qui est le père de la nation, a bien voulu accorder à cette tranche de notre compatriote qui sont en conflit avec la loi. Le temps qu'ils sont passés en détention leur a permis de mesurer l'importance de la liberté, de mesurer la conséquence de leurs actes, qu'à la sortie de prison, ils vont devenir des citoyens normaux pour permettre de vivre dans la société.
Des vagues de libération sont encore attendues dans les autres prisons de Bangui et celles des provinces. Rolf-Steve Domialeux, Bangui.
Et puis la fête se prolonge en Afrique du Sud après les célébrations de la nouvelle année. Le Twede Nouveyar, comprenez, second nouvel an, a lieu aujourd'hui au Cap, dans l'ouest du pays, ce carnaval qui a lieu habituellement le 2 janvier, date héritée de l'époque de l'esclavage. À l'époque, c'était le seul jour de repos, en effet, pour les esclaves. Mais cette année, il aura lieu ce samedi 4 janvier pour permettre aux communautés musulmanes, et elles sont nombreuses dans la ville, de se concentrer sur la prière du vendredi. C'est un sujet signé Claire Bargelès depuis Johannesburg.
Une vague de couleurs, de chants et d'extravagance s'apprête à déferler sur le Cap pour cette nouvelle édition du carnaval. Cela fait des mois que les Klops, les troupes de ménestrels, répètent et organisent leur spectacle. À 53 ans, Mohamed Nournel représente les West London All-Stars.
Tout est créé par nos communautés locales qui passent tant d'heures et de jours à se rassembler pour créer ce défilé. Moi aussi, j'y serai, habillé de mon costume de satin pour apporter une super ambiance toute la journée.
La fête, au son des trompettes et des tambours traditionnels Gouma, continue de commémorer un pan de l'histoire sud-africaine pré-apartheid, comme s'en satisfait Irshan Higgins, fondateur d'un musée consacré au passé esclavagiste du pays.
C'est un événement important pour notre histoire et nos traditions. Je pense que nous devons rendre hommage à nos ancêtres esclaves dont nous descendons. Donc avec ces célébrations aujourd'hui, il s'agit pour la classe ouvrière du Cap de garder en vie la mémoire de ses ancêtres.
Ces dernières années, le parrainage de l'événement par une société de paris en ligne fait débat. Plus de 80 000 spectateurs sont toutefois attendus pour ce grand carnaval. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
7h43 à Johannesburg et au Cap. La suite des RFI Matin avec vous, Gaëtan Plenet.
Et merci à vous, Nemo en Peace.